Merci, merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de saluer. Donc comme vous le savez, si vous êtes là pour la première fois, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais on a démarré cette rentrée vraiment sur le thème de David. Dieu nous a vraiment parlé alors qu'on préparait cette rentrée avec l'équipe, de parler sur David. Il y a tellement de choses à dire. Donc David, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme de la Bible assez central, puisque Mathieu nous avait partagé que David fait partie des personnes, des figures de la Bible dont on parle le plus dans les 66 livres. Et il nous a senti important de parler sur lui, sur sa vie, sur son caractère, sur qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et Michel nous a parlé brillamment de qu'est-ce que c'était qu'être un homme selon le cœur de Dieu, de plein de choses profondes. Et j'en profite pour vous dire vraiment que tous les prêches sont enregistrés et sont en principe disponibles sur le site web. Je vous y encourage vraiment, écoutez-les. Et vraiment, Dieu me parle aussi sur ayant de la discipline. Alors, discipline, souvent, ça fait peur, ce mot, parce que de suite, on voit le côté négatif. Mais je pense que c'est important dans notre vie de chrétien d'être discipliné. Qu'est-ce que ça veut dire être discipliné avec Christ? C'est prendre du temps tous les jours avec lui, non pas comme une obligation, mais comme on l'a chanté là. Seigneur, je veux juste rencontrer ton cœur, je veux juste rencontrer ta présence. Ah, j'ai soif et je prends du temps, je vais mettre du temps à part dans mon agenda, dans ma vie, pour prendre du temps avec toi. Et ça passe aussi, c'est pour vous encourager quand on a des prêches, vraiment des prédications, c'est noter les références qui sont partagées, revenez sur ce qui a été partagé, vraiment pour qu'on puisse ensemble cheminer, que le corps de Christ ensemble, que l'Église connecte, puisse cheminer dans une même direction. Si on parle de tous ces enseignements, ce n'est pas juste pour dire « Ah, c'était un bon prêche ce matin, c'est chouette, et puis on continue notre vie. » Non, c'est qu'on a envie d'être impacté, on a envie d'être transformé de l'intérieur ensemble. Et ça passe par... je dirais mâcher, ruminer, enfin, peu importe le mot que vous utiliserez, mais ce qui a été prêché, revenir, sonder les Écritures. Et c'est vraiment important. Donc je nous y encourage, moi le premier, mais vraiment notons les références, notons même, je pense que ce soit sur le smartphone, sur un petit bout de papier, mais notons les axes principaux de ce qui est partagé chaque dimanche matin. Je pense que c'est important de revenir dessus et de pouvoir être touché et transformé par la parole de Dieu. Donc ce matin, nous avions à cœur de vous parler donc toujours de David et de cette histoire qui est mondialement connue de David et Goliath. C'est pour certains une histoire que vous avez beaucoup entendu, beaucoup de prêches dessus, mais peut-être que pour certains, on s'est rendu compte qu'on a parmi nous des nouveaux convertis, des personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, déjà qui savent à peine qui est David, mais qui ne connaissent peut-être pas cette histoire et d'autres histoires. Et c'est tellement bon de revenir sur ces histoires-là qu'on a... Moi, pour ma part, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc c'est vrai que j'ai entendu cette histoire maintes fois, et pourtant, j'ai encore été béni et touché et encouragé de lire ce que le Seigneur avait fait au travers de David. Il y a tellement de choses, c'est riche. Je ne prétends pas ce matin vous parler de l'exhaustivité de cette histoire-là, mais en tout cas, il y a certaines choses dont Dieu m'a parlé et que j'ai envie de vous partager. Alors, prenez votre Bible, votre smartphone, ou peu importe, mais je pense que c'est important de le lire. Je ne sais pas si Sissou, tu peux nous l'afficher sur le vidéo proche. Je sais que c'est possible, mais dans 1 Samuel 17, juste donner un petit contexte, voilà, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette histoire ou qui c'est un peu nouveau. Donc là, on est... donc au temps où Saül est roi, donc Samuel qui était un prophète, c'est-à-dire juste pour expliquer rapidement, il y a pas mal, il y a des centaines d'années, il n'y avait pas, si vous voulez, Jésus-Christ n'était pas encore venu et on n'avait pas tous cet accès, je dirais, au trône de la grâce et pour recevoir ce que Dieu voulait nous dire. Il y avait certaines personnes qui étaient oint, qui avaient une onction particulière et qui étaient envoyées par Dieu pour parler au peuple d'Israël. Et en ce temps-là, c'était Samuel. Samuel était un prophète et il était connu par le peuple d'Israël pour être celui qui entendait la voix de Dieu et qui avait ce mandat donné par Dieu pour oindre celui ou celle que Dieu lui dirait d'oindre. Parce que le peuple d'Israël ne voulaient pas être seulement gouvernés par Dieu, ils voulaient un roi. Et donc, ils ont dit, envoie-nous un roi, envoie-nous un roi. Samuel, qui était prophète, n'était pas content de cette demande-là. Et donc, il parle avec Dieu, il dit, mais regarde, mais Dieu dit, écoute ce que ce peuple veut et va donner l'onction à un roi. Et voilà. Et Samuel va donc vers Saül, qui est envoyé, va vers Saül pour lui donner l'onction de roi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Saül, alors qu'il est choisi, enfin, alors que Dieu lui donne l'onction, à deux reprises, il n'obéit pas à Dieu. Je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long, mais en gros, Dieu lui demande de faire, d'exterminer un peuple entier et de ne laisser rien, de ne rien prendre de ce peuple-là, et lui prend tous les bons trésors, il ramène dans son peuple toutes les bonnes choses de ce peuple-là, et ça déplaît à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, Dieu dit, Saül s'est détourné de moi, donc je me suis aussi détourné de lui. Et il dit, j'ai donné mon onction à quelqu'un d'autre. Et juste avant ce que je vais vous lire, Samuel va donc vers David, et ça nous a été lu dans les prêches précédents, où Samuel verse vraiment cette corne d'huile sur David pour l'oindre roi. Et là, on arrive donc à ce 1 Samuel 17. Les Philistins, verset 1, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azeka à Éphès d'Amim. Juste pour préciser que Israël est en guerre contre les Philistins. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. Écoutez bien, parce que c'est vraiment important. C'était un géant mesurant près de 3 mètres. Alors souvent, vous savez, moi, donc on me dit souvent, mais qu'est-ce que t'es grand? Alors pour ceux qui se posent la question combien je mesure 1 m95 et j'ai souvent droit à ces petites réflexions. Bientôt, il me faudra un escabeau pour te dire bonjour. Ouh là là, mais qu'est-ce que t'es... Voilà, donc imaginez un géant de 3 mètres. Donc moi, je fais 1 m95, donc il y a plus d'un mètre. Donc, je ne suis pas très bon, mais je pense qu'on ne doit pas être loin du plafond. C'est assez impressionnant, mais c'est important juste de le visualiser. Goliath, ce géant, il s'appelait Goliath. Il était originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60 kilos. 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Moi, de suite, quand je lis ça, je vois tous ces films-là, vous savez, Avengers, tout ça. Imaginez la Hulk, là, les gros biceps, 3 mètres, cuirasse, bam. Je pense qu'il faisait assez peur, ce Goliath. Et chaque jour, pendant 40 jours, je vais le lire ensuite, mais il allait et il lançait un défi à Israël, et on va le lire ensemble. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Là, pareil, écoutez bien, quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Je vais passer pour gagner un peu de temps, mais en gros, donc David ensuite, qui était, donc on l'a lu hein, dans les précédents dimanches, mais c'était le 8e fils, et c'est pourtant lui qui a été choisi par Dieu. Mais lui, c'était, alors c'est pas précis, mais par rapport à ses frères, en tout cas, on comprend que ses frères étaient voilà, grand, beau, fort, et que lui, il était beau, mais qui paraissait en tout cas plus petit, et qui, en tout cas, c'est pas à lui qu'on aurait donné la royauté, parce qu'apparemment, il était moins costaud que ses frères. Et donc lui, comme huitième enfant, gardait le troupeau de son père et allait régulièrement amener de la nourriture à ses trois frères qui étaient avec Saül pour combattre les Philistins. Et donc David va, comme chaque fois, pour amener de la nourriture à ses frères. Et au moment où il vient, Goliath sort, comme tous les jours, pour lancer le défi, pour insulter le peuple d'Israël, comme je voulais lui dire, ben, qui osera se mesurer à moi. Et David, par rapport aux troupes de Saül et au roi lui-même, qui était dans l'épouvante, lui répond, on va directement au verset 25. L'avez-vous vu s'avancer contre nous ? dit l'un des soldats. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui s'étonnaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Je passe, parce qu'après il y a son frère qui le rabroue, parce qu'il se dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ? Tu veux, hein, tu veux toujours écouter ce qui se passe, hein ?» David demande une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qu'on donne à celui qui tuerait ce Philistin ? Et donc David dit, ben moi, je vais aller combattre ce Philistin. Et donc, verset 31, on le lit ensemble, ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. Et là, c'est extraordinaire. David lui dit, verset 32, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, mais tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque son serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Je peux bien imaginer un peu, vous savez, dire ben, que le ciel t'aide, quoi. Parce que Saül avait, je pense, aucune foi en David qui pouvait vaincre ce géant. Puis, verset 38, il lui fit revêtir sa propre armure. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis, il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas car il n'en avait pas l'habitude. Donc, vous imaginez ce petit gamin, comme Saül l'appelle, qui porte cette cuirasse et toute cette armure qui lui est, je suis sûr, trop grand. Je revois ces petits dessins de quand j'étais petit à l'école du dimanche, là, David portant cette armure beaucoup trop grande pour lui, et il ne pouvait pas marcher. Et donc, du coup, David se débarrasse de tout, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger, qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, et il s'avança vers le Philistin. Verset 41, celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il examina, donc vous imaginez ce géant qui se baisse comme ça, qui regarde, comme je peux faire moi déjà parfois. Mais là, j'imagine 3 mètres, c'est... voilà. Et puis il regarda ce petit jeune homme roux et de belle figure, et le regarda avec mépris et lui lança, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses yeux. « Approche un peu, » ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Je suis sûr qu'il y a un super film à faire sur cette histoire, parce que je peux bien le visualiser. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et le géant s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Waouh ! Et je vous donne vite fait la suite de l'histoire. Forcément, toutes les troupes philistins s'enfuient. Le peuple d'Israël les poursuit et les vainc. Et c'est incroyable. À chaque fois que je lis cette histoire, c'est bouleversant qu'un jeune homme comme ça, avec une pierre, sa fronde, ait pu vaincre le géant qui insultait depuis 40 jours l'armée de l'Éternel. Qui ne connaissait pas cette histoire ? Bon, d'accord, ça va. C'est possible. Donc moi, il y a trois choses qui m'ont vraiment frappé dans l'histoire que je vous ai lue, que certes, on connaît, mais qu'il est bon d'y revenir. C'est que quand le Saint-Esprit nous remplit, nous sommes animés d'un courage que rien ne peut nous enlever. C'est que David, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, sur sa propre force, sur son propre savoir, sur ce qu'il savait faire. Mais moi, ce qui me touche chez David, c'est ce courage qui, je suis certain, vient du Saint-Esprit, parce qu'il est dit, quand Samuel a oint David par cette corne d'huile, il est écrit dans les chapitres précédents que l'Esprit du Seigneur demeura sur David à partir de ce jour. Et on peut tout à fait imaginer vraiment ces fleuves d'eau vive qui sont là, le Saint-Esprit qui agit en lui, et David, au-delà des circonstances, au-delà des apparences, qui dit, mais qui est cet insensé, qui est ce fou pour insulter l'armée de l'Éternel ? Et on voit un courage qui dépasse sa carrure, qui dépasse son âge, qui est bien au-delà, parce qu'il faut quand même, il faut le dire, même si David a tué l'ours et le lion, il n'a jamais fait partie, comme ses trois frères, de l'armée, parce qu'il était, je pense, c'est pas explicitement dit, mais je pense qu'il était trop jeune pour faire partie de l'armée. Donc lui, il a jamais participé à ces batailles, à part l'ours et le lion, c'est déjà extraordinaire. Mais je veux dire, ce n'était pas un homme de guerre comme Saül, ses trois frères et sûrement d'autres israélites. Mais David était rempli du Seigneur. Et il y a ce courage qui est là. Et je pense que ça nous parle pour nos vies. C'est que parfois, il y a des montagnes, il y a des géants qui se dressent devant nous et qui veulent nous dire « Non, tu es trop petit pour ci. Tu n'es pas assez capable pour ça. » Mais quand on est rempli de l'Esprit, quand vraiment il y a ce feu qui est là en nous, rien n'est impossible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pouvons faire toutes choses. Et je pense que c'est important de le réaliser que il y a ce verset qu'on connaît qui dit « Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. » Et ce que nous avons tous besoin, en fait, c'est simplement d'être rempli. Si tu es converti aujourd'hui, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais, pourquoi je dis même bien que ça ne peut pas changer, c'est qu'on a besoin de revenir sans cesse à cette source. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, il habite en nous. Mais de quoi nous nourrissons-nous ? Si moi le premier, rempli de l'Esprit pourtant, le Saint-Esprit habite en moi, je me nourris de ce qui amène la peur, que ce soit des fois certaines informations, même si c'est bien de se tenir informé, si je me nourris simplement des choses du monde, des choses qui, faut le dire, véhiculent la peur, pourtant moi, rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, eh ben, c'est comme si ma chair va m'amener plus vers « Ah bon, mais est-ce que vraiment c'est possible ?» vers l'incrédulité de dire « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça ?» Mais si je me nourris de la parole de Dieu, si je me nourris de Dieu, je peux vous assurer que rien ne peut tenir devant moi. Peu importe qui ou quoi se dresse devant moi, si Dieu me dit « Vas-y, j'irai » avec force et avec courage, parce que je sais qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu qui tient tout entre ses mains et que je n'ai rien à craindre. Mais que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Qui osera se tenir contre moi ? Parce que Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Et je crois qu'il y a certes urgence pour chacun d'entre nous de se nourrir de Dieu. Ne laissons pas la peur, ne laissons pas cette atmosphère du monde. Et c'est pour ça que Romains 12, verset 2, dit ne vous laissez pas modeler par le monde, mais soyez sans cesse transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. On a besoin d'être sans cesse transformés dans notre pensée. Parce que si on ne l'est pas, nos pensées, tout doucement, vont aller vers ce qui gravite dans ce monde, c'est ce climat de peur, ce climat de méfiance, tout ça. Et ça, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et on a besoin de se nourrir des bonnes choses. Et moi, David, ce qui me touche, et je pense qu'il peut tous nous toucher, c'est ce courage qu'il a et qui lui vient de l'Éternel. Vous savez, l'une des armes favorites de Satan, c'est l'intimidation. Je suis sûr qu'ici, et je ne pense pas me tromper, on a tous été au moins une fois dans notre vie intimidés. Par un professeur, par votre patron, par vos parents, par quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, par un vendeur, peu importe. C'est des gens qui paraissent, vous savez, un peu comme ces philistins, comme ce géant, qui paraissent intouchables, qui paraissent rien ne peut les atteindre, immortels presque. Et du coup, ils prononcent une parole ou ils vous regardent d'un certain air et on a peur. Et du coup, on est intimidé et on n'ose plus dire ou faire ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on a tous vécu ici, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué, de ma petite expérience, que souvent c'est la tactique que l'ennemi utilise, l'intimidation. Mais tu sais, si tu suis Dieu, tu sais que ça ne sera pas tout rose. Hein. Tu sais que si tu vas là-bas, attention. Et malheureusement, des fois même, c'est notre propre famille qui nous dit, mais vraiment, tu veux faire ci? Mais tu sais que, pétard, il y a peu de gens qui réussissent à faire ça. Ah, mais tu sais. Et des fois même, dans notre propre clan, dans notre propre entourage, des gens vont nous dissuader de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que c'est la peur qui règne peut-être dans notre famille ou dans nos amis ou dans les gens que l'on côtoie. Et en fait, eux, parce qu'ils sont dans la peur, sans faire esprit, ils nous transfèrent, ils nous donnent un peu cette peur. Ils disent, mais tu sais, fais gaffe, tout ça. Mais moi, je veux vous encourager de ne pas écouter ces voix-là. Si Dieu te dit d'aller à droite ou d'aller à gauche, vas-y, parce qu'il est avec toi. Et peut-être que Dieu va te donner un courage qui dépasse l'entendement de faire certaines actions, certaines choses, ou de dire certaines choses en public qui peuvent, en effet, peut-être être dangereuses. Mais si elles sont inspirées par Dieu, Dieu te donnera toujours la protection et il te gardera toujours sous sa main. Et on a besoin, je pense, d'être rempli du Saint-Esprit pour aller vraiment obéir à ce que le Père nous dit. Vous savez, Jésus faisait ce que le Père lui disait. Il faisait que ce que le Père lui disait. Mais on a besoin d'entendre ce que le Père veut. Et on a besoin d'aller, de ne pas se fier aux apparences, à ce qu'on voit, mais de dire, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. C'est ce que Pierre a fait. Et il a eu une pêche miraculeuse. Sur ta parole, Seigneur, j'irai. Alors, ne nous laissons pas intimider par l'ennemi, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on en parle souvent avec Matthieu, c'est que quand on passe des temps comme ça, dans la présence de Dieu, quand vraiment on est, vous savez que notre coupe, elle est pleine, là c'est comme si tous nos soucis du boulot, de la famille, tout ça, c'est mis de côté, c'est vraiment mis à la croix de Jésus, on est juste rempli du Seigneur, mais je pense que tous ici, on l'a vécu. Et si vous ne l'avez pas vécu, je serais ravi de prier pour vous à la fin. Quand on est rempli du Saint-Esprit, enfin moi en tout cas ça me le fait, je me sens invincible. Et ce n'est pas que je le suis, parce que je suis mortel, entre guillemets comme vous, je ne suis que poussière, mais parce que Christ habite en moi. Il y a ce feu qui est là. Et quand le Saint-Esprit m'anime, je dis, mais Seigneur, en ton nom, j'irai dans les rues, en ton nom Seigneur, j'irai parler, j'irai proclamer qui tu es. Quand on est rempli du Saint-Esprit, mais il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et combien il est important et urgent d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Parce que sinon, on tombe dans une vie passive, on tombe dans une vie où tout doucement, c'est la peur qui guide nos émotions, c'est la peur qui guide nos choix, ou c'est la peur de manquer, c'est l'argent, c'est plein d'autres choses. Mais on a besoin d'être seulement guidé par le Saint-Esprit, que ce soit lui qui nous dise, mais va là-bas, et je pourvoirai, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, de ce que tu boiras. Juste fais ma volonté, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa volonté et sa justice et toutes choses te seront données en plus. Et je pense qu'on a besoin en tant que chrétien vraiment d'avoir ce leitmotiv, d'avoir cette passion pour le royaume tous les jours, de chercher vraiment de ne pas se laisser distraire mais vraiment chercher d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et je peux vous assurer, les amis, que toutes choses nous seront données en plus. C'est un Dieu bon, comme l'a dit Matthieu, c'est un Père qui est merveilleux, qui aime donner avec abondance, avec bonté. Alors ne nous inquiétons pas des petites choses de la vie, mais faisons-lui confiance sur les détails de nos vies. Mais nous cherchons sa volonté et prenons du temps pour revenir à la source, pour nous abreuver au torrent de ses délices, comme le dit la parole, et être continuellement transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Tellement important. Et un petit exemple où je l'ai expérimenté, je me souviens, j'étais en bac plus 5, donc vers la fin de mes études, en tout cas à l'école, et j'allais passer justement mon examen pour le bac plus 5, et j'avais une prof de FISCA, c'était un peu électrique entre nous, parce que fiscalité, je suis désolé. Fiscalité, c'est les petits jargons. Et elle était, c'était une professeure qui faisait de son mieux possible, mais qui aimait bien un peu casser du sucre sur certains élèves, dont moi, parce que c'est vrai que j'étais un peu, je peux le comprendre, un peu énervant, puisque ça marchait plutôt bien, mais j'aimais bien rigoler un peu en cours. Vous savez, moi, j'avais du mal à être sérieux. Je suis même, entre guillemets, partisan, que je pense que plus on va rire, plus on va réussir en cours, mais bon, ça, c'est... que moi, si les profs sont là, ne me jetez pas des pierres, mais voilà, dans le respect et puis dans l'honneur, mais je trouve que ça fait du bien, voilà, de ne pas se prendre trop la tête, parce que j'avais des copines qui étaient stressées comme ça, oh, mais tu sais, j'ai dit, cool, calme-toi, voilà, cool, et c'est vrai que plus on est cool, plus on est relax, et plus dans nos examens, souvent, ça se passe bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, il faut rire et travailler, enfin bref, et cette prof de FISCA qui m'avait un peu dans le collimateur, me dit, mais pff, de toute façon, toi Olivier, c'est sûr, tu ne l'auras pas, quoi. Je dis, mais comment ça, je ne l'aurai pas? Ah ben là, vu comment tu es, tout ça, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Je dis, si, moi je pense que je l'aurai. Non, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Je dis, ben vous savez quoi? Rendez-vous le 25 février. Et le 25 février, c'était la date de remise des examens. Et c'est comme sorti de moi, mais je ne l'ai même pas contrôlé, mais je sentais, vous savez, comme un feu. Peut-être que je le retranscris mal, mais je n'ai pas été insolent ou quoi, mais c'est juste que j'ai dit, ah bon, eh ben rendez-vous le 25 février et je peux vous assurer que je l'aurai. Un peu comme David qui a dit, ben moi j'irai et je combattrai. Eh ben j'ai eu mon diplôme. Et du coup, quand elle a dit, bon, alors lui l'a eu, Olivier l'a eu, vite, elle a baissé les yeux. Mais oui, et cette prof qui, je suis sûr, ne faisait pas exprès, mais elle m'avait intimidé un peu. Vous savez, enfin, elle cherchait à m'intimider, à dire, mais pff, de toute façon, toi, tu ne l'auras jamais. Et combien de fois, des fois, on peut entendre ces paroles-là en cours, au travail ou ailleurs, sans lui, jamais. Et ne laissons pas ces paroles-là pénétrer en nous et produire des mauvaises racines. Mais chassons ça, dire non, moi, si Dieu est avec moi, eh bien, je réussirai. Si Dieu est avec moi, je vais aller là, 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 et je sais que ça va marcher. J'ai la conviction que plus nous sommes remplis du Saint-Esprit et plus nous sommes déterminés dans nos convictions et affirmations. Branchons-nous à la source afin d'être remplis de vaillance et de courage. Si tu manques de courage, si tu manques de vaillance, si tu as toujours peur comme ça, tout ça, branche-toi à la source. Laisse le Saint-Esprit te remplir et te donner ce courage. Parce qu'avec lui, tout est possible. C'est ce que nous dit la parole. Et je voulais insister particulièrement sur ce point, sur la peur des hommes. Je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que le Seigneur me parle pour notre communauté sur la peur des hommes. Ici, je sens qu'il y a plusieurs personnes, tu as peur. Tu as peur de certaines figures d'autorité, de certaines personnes qui t'ont fait du mal. Et du coup, tu as du mal à confronter certaines personnes qui sont en position, ça peut être un professeur, ça peut être ton patron, ton leader d'église, ça peut être peu importe, mais c'est comme si tu as du mal à rentrer, pas en conflit, mais à confronter. Et je sens que le Seigneur veut te délivrer de cette peur qui handicape ta vie, parce que du coup, ça se répercute sur tous les compartiments de ta vie où tu n'oses plus dire, et même souvent, tu envoies soit ton mari, soit ta femme, soit tes enfants, ton ami, parce que toi, tu as du mal à toi-même y aller. Mais je veux te dire ce matin que Dieu t'envoie. Dieu veut te libérer de cette peur des hommes. Parce que quand tu vois un homme, une femme qui te fait peur, rappelle-toi qu'il est comme toi. Il n'est que poussière. Même si le président venait ici, et bien sûr qu'on l'honorerait, parce que la parole nous dit d'honorer le roi, d'honorer le président, bien sûr qu'on lui ferait les honneurs, mais ça reste un homme comme toi et moi, qui est soumis à la volonté de Dieu. Et s'il est en exercice, c'est parce que Dieu a permis qu'il soit en exercice. Et donc c'est juste encourager de dire, mais ces hommes et ces femmes que tu crains, elles sont comme toi. Mais Dieu habite en toi. Ne te laisse pas intimider par les personnes, par ces personnes-là. Ça ne veut pas dire de les critiquer, ça ne veut pas dire de leur manquer de respect, mais simplement de croire que Jésus est en toi et que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc j'aimerais juste prier pour ça à la fin, plus tard, je vois que c'est déjà midi. Tant pis, je vais sauter mon point 2. Juste des derniers points que je voulais parler, parce que ça c'est vraiment important, c'est que être fidèle dans les petites choses. Nous servons un Dieu infini, avec des possibilités infinies, et nous n'avons pas idée de ce que Dieu peut faire. Moi, ce qui me touche dans l'histoire de David, mais vous imaginez 5 pierres. Il a sélectionné 5 pierres, sa fronde, son bâton, et il a vaincu le géant. Et ces 5 pierres, moi, ça m'a de suite, alors que je préparais ça, ça m'a rappelé les 5 pains et les 2 poissons qu'on trouve dans l'évangile, dans Jean 6, rappelez-vous, où Jésus dit, comment allons-nous nourrir toutes ces personnes? Et les disciples stressent. Oulala, mais mince, on a oublié d'acheter du pain, mais on n'a que 200 cycles d'or. On n'aura jamais acheté jamais assez pour acheter pour tout le monde. Et en plus, le temps d'y aller et de revenir, en gros, on est coincé. Mais tiens, voilà un petit enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Amenez-les-moi. Jésus rend grâce. Et qu'est-ce qui se passe? La nourriture est multipliée. Et là, il y a 5000 hommes. 5000 hommes qui sont nourris. Plus les femmes, plus les enfants. Donc je ne sais pas combien c'était exactement, mais à mon avis, ça va être 7, 8, 9, peut-être 10 000 personnes qui sont nourries. Et encore plus fort que ça, c'est que les disciples ensuite en ramassent 12 corbeilles. 12 corbeilles de pain qui sont ramassées il y a la fin. Donc imaginons là, j'ai 5 tranches, vous imaginez? 5 tranches peut-être ici, là. Et ça, ça a nourri 5 000 personnes plus 12 corbeilles. Pas mal. Parce que c'est le Dieu de la multiplication, parce que rien n'est impossible à lui. Et peut-être que nous, des fois, on sent un peu comme ça, on dit, mais Seigneur, franchement, j'ai rien, j'ai mes pauvres 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais fais confiance au Seigneur, il peut tout, avec le peu que tu as, il peut faire des choses extraordinaires. Et parfois, on est noyé dans la société par tout ce qu'on entend. Moi, le premier, ce que j'entends en ce moment sur la PMA, sur les lois, tout ça, je dis, mais Seigneur, mais où on va? Et parfois, je me sens aussi impuissant, mais... Je veux me souvenir et je veux dire, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Et peut-être que je suis une personne sur les 66 millions de Français, mais je veux prier et intercéder, Seigneur, que la famille soit préservée. Je veux prier et intercéder, Seigneur Jésus, que ton esprit se répande sur la France. J'ai peut-être que mes 5 pains et mes 2 poissons, Seigneur, mais en ton nom, j'irai, je te les apporte et je crois que tu es le Dieu de la multiplication. Et je crois que le Seigneur veut nous délivrer vraiment de cet esprit de pauvreté, de dire toujours, mais j'ai rien, j'ai si. Si, le Seigneur t'a donné forcément quelque chose. Tu as des dons, tu as des talents, même si c'est 5 euros sur ton compte bancaire, et bien utilise-les pour la gloire de Dieu. Et lui va multiplier, parce qu'il est le Dieu de l'abondance et de la multiplication. Et je sentais que le Seigneur voulait un peu nous bousculer ce matin et nous dire, que veux-tu que je te fasse? Comme cet aveugle qui est revenu vers Jésus qui a dit, et Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je puisse voir. Et cet aveugle a vu. Et Dieu te dit ce matin, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse avec tes 5 pains et tes 2 poissons? Mais ose demander et vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ce que dit la parole. Et combien de fois je me rends compte qu'on est là passif, on est là atterré par ce qui se passe, mais on ne demande pas. Tu veux que la famille... sois préservé, mais prie, demande au Seigneur que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, que le Seigneur vraiment touche le cœur des députés, que le Seigneur touche le cœur de nos autorités. Tu as envie de voir ta famille sauvée, mais demande, Seigneur, sauve ma famille. Combien on a besoin de demander, parce que c'est qu'en demandant qu'on recevra. Le ciel est là, vraiment tout est là, son royaume se manifeste. On a juste besoin de demander et de prendre autorité sur les choses, l'autorité que Jésus nous a donnée. Amen. Alors, osons, les amis, osons dire la vérité, osons parler avec courage et vaillance, comme le Saint-Esprit nous l'inspirera. Vous savez, quand il y avait plusieurs disciples qui avaient peur de parler en public parce qu'il y avait pas mal de persécutions, mais les apôtres ont dit, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz ou quoi, mais quand vous ouvrirez la bouche, le Saint-Esprit vous dira quoi dire. Et ça, c'est ça, moi je veux juste vous encourager, des fois on peut se dire, mais je sais pas quoi dire ou quoi, t'inquiète pas, va, obéis au Seigneur et le Seigneur va remplir ta bouche et te donner les paroles qu'il faut. Et je finirai par ce que David a dit. Toute cette multitude assemblée saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui. Et il vous livre en notre pouvoir. C'est l'Éternel qui combattra pour nous. C'est l'Éternel qui combat pour toi encore aujourd'hui. Je vais demander à Estelle de revenir. Et j'aimerais juste qu'on puisse passer un petit temps de prière. Par rapport à ce que je vous ai dit, je l'ai dû écourter un peu, c'est pas grave. Mais voilà, je sentais qu'il y avait deux choses que le Seigneur voulait faire aujourd'hui, ce matin. J'ai parlé de cette peur de l'homme, et peut-être que ça te parle, tu as peur de parler en public, tu as même été blessé par des figures d'autorité, et aujourd'hui c'est comme si tu veux parler, mais ça sort pas, c'est muselé en toi. Dieu veut te libérer ce matin. Je crois que Dieu veut te libérer, et je t'invite à te lever si tu concernais par ça. Je veux vraiment prier pour toi parce que Dieu va te toucher. Et tu as souvent été intimidé, souvent voilà, peur, et je sens que Dieu veut te donner un courage et une vaillance qui va être au-delà de ta taille, de ta corpulence, de ton âge, mais un courage et une vaillance qui va venir du Saint-Esprit et qui va même pouvoir te donner l'opportunité de parler devant des autorités avec vaillance et avec conviction. Et la deuxième chose pour laquelle je voulais prier, c'était refuser le fatalisme. Je vous dis, on est dans une société où ça va tellement vite. Là, je reparle de ces lois, ça va très très vite. Bam, 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 hop, c'est voté. On n'a presque pas eu le temps d'y réfléchir ou quoi. Et c'est facile, je trouve, de tomber dans le fatalisme, de dire, bon, ben, c'est comme ça, écoute, c'est passé, c'est pas grave. Mais je crois vraiment qu'il est temps qu'une génération se lève pour prier et intercéder pour Montélimar, pour cette nation, pour ce monde. Et nous sommes un royaume d'intercesseurs. Et le Seigneur nous appelle à nous lever, ne pas tomber dans le fatalisme, dire ben c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si Dieu veut faire un miracle, si Dieu veut se manifester dans ce monde, dans cette ville, dans nos vies, il peut le faire. Rien n'est impossible à lui. Et je crois qu'on a besoin de se repentir, et c'est peut-être ton cas ce matin, de te repentir de ce fatalisme qui a envahi comme une vigne vierge, qui a envahi un peu toute ta vie, où en fait tout est fatalisme dans ta vie, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta vie de célibataire, pour ton travail. Tu dis, ben, c'est comme ça, ben, écoute, moi je me laisse un peu balloter à droite à gauche. Non, le Seigneur veut te donner du courage, de la vaillance.